Alors aujourd'hui, je vais vous lire la synthèse du yoga, égalité et annihilation de l'ego. C'est la synthèse du yoga number one, le yoga des œuvres, traduit de l'anglais par la mère. C'est cette vérité que nous devons chercher et découvrir derrière l'expression fugitive. Alors, sans nous laisser rebuter par les apparences, les insuffisances ou les déformations de l'expression, nous pouvons derrière ces masques adorer le divin jamais non souillé, pur, beau et parfait. Certes, tout doit être changé. Ce n'est pas la laideur qu'il faut accepter, mais la beauté divine, pas l'imperfection où l'on se repose, mais la perfection pour laquelle on lutte. C'est le bien suprême qui doit devenir le but universel et non le mal. Mais ce que nous faisons doit être fait avec une compréhension, une connaissance spirituelle. Et c'est un bien divin, une beauté, une perfection et un plaisir divin qu'il faut rechercher, non l'excellence humaine de ces choses. Si nous n'avons pas d'égalité, c'est le signe que nous sommes encore poursuivis par l'ignorance. Nous ne comprenons rien vraiment, et très probablement, nous détruirons la vieille imperfection seulement pour en créer une autre. Car nous substituerons aux valeurs divines les appréciations de notre mental humain et de notre âme de désir. L'égalité n'est pas une nouvelle ignorance, ni un aveuglement d'aucune sorte. Elle n'entraîne pas et n'engendre pas nécessairement une vision en grisaille et l'abolition de toute nuance. Les différences sont là. Les variations d'expression sont là. Et nous saurons évaluer ces variations d'une façon beaucoup plus juste que nous ne pouvions, quand nos yeux étaient encore obscurcis par la partialité et l'égarement de la haine et de l'amour, de l'admiration et du mépris, de la sympathie et de l'antipathie, de l'attirance et de la répulsion. Mais derrière les variations, et toujours nous verrons le complet et l'immuable qui demeure en elle, et nous sentirons, nous serons le sage dessein, ou du moins s'il nous est caché, nous ferons confiance à la divine nécessité de telle ou telle manifestation particulière, qu'elle apparaisse harmonieuse et parfaite selon nos normes humaines, ou grossière, ou incomplète, ou même fausse et mauvaise. Parallèlement, nous aurons la même égalité d'âme et de pensée pour tous les événements, pénibles ou agréables, défaite ou succès, honneur ou disgrâce, bonne ou mauvaise réputation, bonne et mauvaise fortune, car en tous les événements, nous verrons la volonté du maître de toutes les œuvres et de tous les résultats, et une étape dans l'expression évolutive du divin. À ceux qui voient avec l'œil intérieur, ils se manifestent dans le jeu des forces et dans leurs résultats autant que dans les choses et dans les créatures. Toute chose se meut vers une issue divine. Chaque expérience, chaque souffrance, chaque privation, de même que chaque joie et chaque satisfaction, est un chemin nécessaire dans l'exécution d'un mouvement universel que nous avons pour tâche de comprendre et de seconder. Se révolter ou condamner, crier ou s'indigner est l'impulsion de nos instincts ignorants et indisciplinés. La révolte, comme tout le reste, a son utilité dans le jeu. Et elle est même nécessaire, c'est une aide. Elle fut décrétée en son temps et le lieu pour le développement divin. Mais le mouvement d'une rébellion ignorante appartient au stade de l'enfance de l'âme ou à son adolescence inexpérimentée. L'âme mûrit, ne condamne pas. Elle cherche à comprendre et à maîtriser. Ne s'indigne pas, mais accepte ou travaille à améliorer et à perfectionner. Ne se révolte pas intérieurement, mais fait effort pour obéir, réaliser et transfigurer. Par conséquent, c'est une âme égale que nous recevrons toutes choses des mains du Maître. Nous accepterons l'échec comme un passage, avec autant de calme que de succès, jusqu'à ce que devienne l'heure de la victoire divine. Notre âme, notre mental, notre corps demeureront inébranlés par le chagrin, la souffrance et la douleur, les plus aigus, s'ils viennent à nous, dans la dispensation divine et seront impassibles dans la joie et le plaisir les plus intenses. Ainsi, suprêmement équilibrés, nous continuerons d'un pas ferme notre chemin, faisant face à toute chose avec un calme égal, jusqu'à ce que nous soyons prêts à un état plus sublime et capable d'entrer en Ananda suprême et universel. Cette égalité ne peut venir qu'après une épreuve prolongée et une patiente discipline de soi. Tant que le désir est fort, l'égalité ne peut pas venir, sauf à des périodes de quiétude et de fatigue du désir. C'est alors, probablement, plus une indifférence inerte ou un repliement du désir que le calme vrai et l'unité spirituelle positive. En outre, cette discipline ou cette croissance en l'égalité d'esprit à ces époques et à ces stades nécessaires. Généralement, il faut commencer par une période d'endurance, car nous devons apprendre à affronter, souffrir et assimiler tous les contacts. Chaque fibre de notre être doit être entraînée à ne pas scier devant tout ce qui nous fait souffrir et répugne à ne pas courir éperdument vers ce qui plaît et attire, mais accepter, tenir tête, endurer et conquérir. Nous devons être assez forts pour supporter tous les contacts, non seulement ceux qui nous sont appropriés et personnels, mais ceux qui naissent de notre sympathie ou de notre conflit avec les mondes autour de nous, au-dessus ou au-dessous de nous et avec les êtres qui les peuplent. Nous endurons tranquillement l'action des hommes, des choses et des forces et de leurs impacts sur nous. La pression des dieux et l'assaut des titans. Nous ferons face et engloutirons dans les mers sans remous de notre esprit tout ce qui peut venir à nous par les voies de l'expérience infinie de l'âme. C'est la période stoïque de préparation à l'égalité. Son âge le plus élémentaire est pourtant le plus héroïque. mais cette endurance imperturbable de la chair, du cœur et du mental doit être renforcée par un sens invariable de la soumission spirituelle à la volonté divine. Cette argile vivante doit céder, non seulement avec un acquiescement austère et courageux, mais avec la connaissance ou résignation même dans la souffrance, au toucher de la main divine qui prépare sa perfection. Un stoïsme sage, fervent, ou même le tendre stoïsme de l'amant de Dieu sont possibles. Et ceci est mieux qu'une endurance purement païenne qui ne compte que sur soi et peut produire un endurcissement trop grand du vaisseau de Dieu. Ce genre de stoïcisme prépare la force capable de sagesse et d'amour. Sa tranquillité est un calme profondément sensible qui se change aisément en béatitude. Le gain de cette période de résignation et d'endurance est une force d'âme égale devant tous les chocs et tous les contacts. Vient ensuite une période d'impartialité et d'indifférence altière, pendant laquelle l'âme se délivre de l'exultation et des dépressions, échappe au piège des voix fébriles, comme au sombre filet des angoisses du chemin et de la souffrance. Toutes les choses et les personnes et les forces, toutes les pensées, les sentiments, les sensations et les actions, les nôtres autant que celles des autres, sont vues d'en haut par un esprit qui reste intact et immuable et n'est point troublé par ses remous. C'est la période philosophique de la préparation à l'égalité, un mouvement vaste et auguste. Mais l'indifférence ne doit pas se figer ni devenir un inerte refus de l'action et de l'expérience. Ce ne doit pas être une aversion née de la lassitude, du dégoût et de la répugnance, du repliement du désir déçu ou rassasié. La morosité d'un égoïsme frustré et mécontent qui a été contraint d'abandonner ses fins passionnées. Ces replis viennent inévitablement dans une âme qui n'est pas mûre, et d'une certaine façon, ils peuvent aider au progrès en décourageant l'avidité de la nature vitale poussée par le désir. Mais ce n'est pas ce genre de perfection auquel nous nous efforçons. L'indifférence ou l'impartialité que nous devons rechercher est la calme supériorité d'une âme hautement posée au-dessus du contact des choses. Alors il y a un petit nota bene, Udasina. Elle les regarde et les accepte et les repousse, mais ce n'est point troublé quand elle les rejette, ni asservie quand elle acquiesce. Elle commence à se sentir proche, intime, une, avec un moi silencieux, un esprit existant en soi et séparé des opérations de la nature qu'il soutient et rend possible. Elle commence à faire partie de la réalité calme et immobile qui transcende le mouvement de l'action de l'univers ou à s'émerger en elle. Le gain de cette période de haute transcendance est la paix d'une âme qui n'est pas ni ébranlée ni ballottée par les risées plaisantes du mouvement cosmique, ni par son ressac et c'est l'âme de tempête. Si nous pouvons franchir ces deux étapes du changement intérieur, sans nous laisser arrêter ni figer à l'une ou à l'autre, nous sommes admis à une égalité divine supérieure qui est capable d'une ardeur spirituelle et d'une tranquille passion dans la félicité. L'égalité extatique d'une âme parfaite qui comprend tout, possède tout. L'ampleur et la béatitude lisse et intense de l'être qui embrasse tout. C'est la période suprême et le chemin qui conduit là passe par la joie d'un total don de soi au divin et à la mère universelle. Car la force est alors couronnée par une maîtrise joyeuse. La paix s'approfondit en béatitude. La possession du calme divin s'élève et devient la base de la possession du mouvement divin. Mais pour que cette perfection supérieure puisse venir, il faut que la haute position impartiale de l'âme qui regarde d'en haut le flux des formes, des personnalités, des mouvements, des forces se modifie et se change en un sens nouveau de soumission calme et forte, de don de soi puissant et intense. Cette soumission ne sera plus un acquiescement résigné, mais une acceptation joyeuse, car le sentiment de souffrance n'existera plus, ni la sensation de porter un fardeau ou une croix. L'amour et la félicité, la joie du don de soi, formeront la trame lumineuse de la soumission. Et cette soumission sera faite non seulement à la volonté divine que nous percevons, acceptons et à laquelle nous obéissons, mais à la sagesse divine que nous reconnaissons dans cette volonté et cet amour divin que nous sentons en elle et subissons avec ravissement. La sagesse est l'amour d'un esprit suprême qui est le moi de notre moi et de tous les moi avec lesquels nous pouvons réaliser une unité heureuse et parfaite. Une paix, une immobilité puissante et une puissance solitaire. Tel est le dernier mot de l'égalité philosophique du sage. Mais dans son expérience intégrale, l'âme se libère de l'état qu'elle avait elle-même créé. Elle entre dans un océan d'extase suprême qui embrasse tout en la béatitude sans commencement ni fin de l'éternel. Alors, et enfin, nous sommes capables de subir tous les contacts avec une égalité bienheureuse parce que en chacun, nous sentons l'attouchement de l'amour qui ne meurt pas, de la félicité impérissable et l'allégresse absolue à jamais cachée au cœur des choses. La conquête de ce haut sommet de ravissement égal et universel est le délice de l'âme. Les portes s'ouvrent sur la béatitude infinie et la joie qui dépasse toute compréhension. Sri Aurobindo. Alors, je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et Douce Mère, avec un grand, grand remerciement à Sri Aurobindo et à Mère.